Pour ça, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on s'est dit dans le premier cours? So far, so good, comme on dit si bien. Là, on va se parler toujours dans les concepts de base, mais il y a quelque chose qui est quand même très important parce que ça, c'est un peu l'architecture du système de sécurité financière qui est basé autour de ce concept-là. C'est l'idée d'un système à trois étages. Pour référer justement à l'idée très concrète d'une architecture ou à la limite d'un édifice. Le système, puis il y a des variantes, on verra dans une minute, là, dans quelques minutes, mais à la base, le système, il est bâti comme étant à trois étages, c'est-à-dire que la protection que vous recherchez ou dont vous bénéficierez, elle peut être le fait de votre action à vous. Là, on parle évidemment de protection individuelle. Elle peut être le fait de votre boss. Je parle de programmes d'avantages sociaux dans le contexte d'une entreprise. Puis, ça peut être le fait du PM. PM, c'est le premier ministre, là. Donc, ça peut être le fait de l'action de l'État qui met en place, suite à une décision politique, des régimes qui couvriront tous les gens qui en ont besoin, espérons-le. Donc, c'est beaucoup bâti autour de ça, sauf qu'il n'y a pas parfaite équivalence entre les trois niveaux. On verra tout à l'heure pourquoi il y a des différences, mais a priori, ce qu'on peut noter, c'est qu'évidemment, plus on se déplace d'un étage à l'autre, bien, plus la gamme de protection qu'on peut toucher, dont on peut bénéficier, va avoir tendance à s'élargir ou au contraire à se rétrécir. Faut bien commencer quelque part. On va commencer avec les régimes individuels, qui ne sont pas l'objet du présent cours. C'est des questions qu'on aborde plus un peu dans ACT-1000, ces choses-là, là. Mais de façon générale, puis sans aller dans tous les détails, en termes de protection financière, quand on parle de régime individuel, on parle essentiellement de police d'assurance, puis d'épargne retraite. Okay? Police d'assurance, bien, ce qu'on peut couvrir, c'est sa vie, puis ça, c'est, comment dire, la profession actuarielle est née sur cette idée-là qu'on va payer un montant suite au décès d'une personne. Ça s'est élargi quelque peu, santé, invalidité. Pourquoi je mets un point d'interrogation, c'est que, évidemment, si vous êtes un individu, vous les assurez sur base individuelle, puis vous vous présentez dans les bureaux d'une compagnie d'assurance, puis vous dites, ben moi, j'aimerais ça avoir une assurance vie. Ils vont dire, oui, c'est correct, on en vend, puis on aime bien ça en vendre. Mais j'aimerais aussi avoir une protection d'assurance santé, une protection d'assurance invalidité. Ils diront pas non, loin de là, là, mais avec l'esprit qu'ils sont là pour non seulement vous rendre service, mais aussi faire de l'argent. Donc, première des choses qu'ils vont vous dire, bien, ils vont vous dire, bien, ça serait peut-être bon de passer un petit examen médical. On va vous faire remplir un petit questionnaire. C'est quoi ça? Bien, c'est la notion d'antisélection. OK? Les compagnies, puis ils se font taper ses doigts des fois, ou certains les considèrent comme étant, sans cœur. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas assurables ou, pour s'assurer, devront payer des surprimes extrêmement importantes. Évidemment, c'est la question de l'antisélection qui découle du fait qu'une police d'assurance individuelle, c'est facultatif, c'est optionnel, c'est volontaire, il n'y a pas d'obligation. Okay? Dans le domaine de la vie au Québec ou au Canada, il n'y a pas d'obligation de souscrire une assurance individuelle d'aucune façon. J'espère que je vous dis rien. Ce qui n'est pas le cas en assurance IRD. Si vous conduisez une automobile, on dit bien, l'essentiel du marché de l'assurance automobile, là, pour ce qui est des dommages matériels, c'est du fait d'assurance individuelle. C'est chaque conducteur ou chaque propriétaire d'automobile qui doit s'assurer. Puis la loi dit, tu dois nécessairement avoir une protection, ne serait-ce que pour la responsabilité civile. Si tu scrapes le taux de ton voisin, bien, il faut que tu sois assuré. Mais tout ça demeure dans le domaine de l'assurance individuelle. Mais obligatoire. Mais dans le cas de tout ce qui a trait à la vie, ce qu'on va couvrir plus ensemble, c'est purement optionnel. Puis de ce fait-là, bien, évidemment que cette réalité-là de l'antisélection fait en sorte que la gamme de protections qui sont offertes est plus limitée. Vous n'avez pas d'assurance individuelle contre le chômage, par exemple, parce que l'antisélection est trop forte, là. Mais aussi, bien, qu'il peut y avoir des tarifications adaptées, notamment des surprimes, si votre état de santé le permet. Donc, un premier volet. Deuxième volet, c'est l'épargne. Règle générale, il y a deux, la principale source d'épargne, outre le fait qu'on veut souvent avoir sa maison, son condo, ses petites affaires, là, c'est la retraite. Mais évidemment, quand on met de l'argent pour la retraite, vu que la retraite arrive en fin de vie, bien, ça peut servir à autre chose, notamment s'il y a des problèmes de santé, notamment s'il y a des épisodes de chômage. Mais évidemment, là, on parle d'épargne, on ne parle pas d'assurance. Donc, il y a absence de transfert de risque qui fait en sorte qu'on y va avec l'argent qu'on a accumulé. Ça va? Donc, ça, ce sont les régimes individuels. C'est le moi de la chose. Le deuxième volet, c'est les régimes d'employeur qu'on associe à des programmes d'avantages sociaux sur la vie, la santé, la maladie, invalidité, salaire. OK? On va y venir. On va aller voir notre petit exemple du relevé là, de prestation de la compagnie ABC dans une minute. Là, on va voir ce qu'il offre dans cette fameuse compagnie-là, dont on n'a pas le nom, mais qui existe vraiment. Évidemment que quand on parle d'avantages sociaux offerts par des employeurs dans un contexte de sécurité financière, comme je vous l'ai déjà dit, il y a le volet assurance collective, puis il y a le volet régime de retraite, puis le volet régime de retraite, il y a deux grandes familles, cotisation déterminée, prestation déterminée, on parlera de ça en temps et lieu. Mais pour l'assurance collective, c'est ce à quoi on va s'attarder un petit peu ce matin quand on va aller sur le relevé. On parle essentiellement de trois grandes protections, du moins au sens classique du terme. La vie, la santé, puis la maladie, l'invalidité, qu'on assimile, ou le jargon reconnu pour les programmes privés d'avantages sociaux, c'est l'assurance salaire. Donc, remplacez votre salaire si vous êtes malade ou si vous êtes invalide. Finalement, les régimes étatiques, sécurité sociale, bien là, vous avez à peu près toute la gamme de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, incluant un minimum de ressources, l'aide sociale, incluant l'assurance emploi, incluant bon, des accidents de travail pour d'autres raisons, incluant les prestations de maternité, prestations familiales, etc. Là. Donc là, on a une gamme beaucoup plus large de régimes qui sont offerts. Puis je dirais, on peut même aller dans l'univers des risques non assurables. Pour une raison toute simple, c'est que c'est décidé par loi, ou c'est établi par loi, c'est le fruit d'une décision politique dans un contexte d'une démocratie. Puis c'est établi par loi, donc évidemment... Moi, je paye, puis vous aussi, vous payez toutes les semaines si vous travaillez, bien, une cotisation à des régimes obligatoires, publics, de rente, d'assurance, etc. Puis on n'a pas le choix, puis évidemment, ça permet de couvrir tout le monde. Une notion qui est importante, puis on va y venir un petit peu plus tard ce matin, c'est de savoir si le régime étatique ou le régime de sécurité sociale, il est un substitut au privé ou s'il est un complément. Il y a une relation de complémentarité entre le public et le privé. Quand je dis substitut, je vais vous donner l'exemple un petit peu plus tard ce matin, les accidents de travail, maladies professionnelles, on a fait le choix que c'est l'État qui couvrait tous les besoins. Donc, out l'assurance privée des accidents de travail, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple, mais ici, c'est l'État qui prend charge de ça. Donc, il est venu prendre la place du privé en matière d'accidents de travail. Quand on parle de complément, bien, c'est là que s'incarne de façon la plus tangible, la plus concrète, la plus réelle, l'idée d'un système à trois étages. Le jour que vous allez planifier votre retraite, vous allez vous dire, bien, qu'est-ce que l'État va me payer, qu'est-ce que mon boss va me payer, puis qu'est-ce que moi je vais me payer pour rendre la retraite. Donc, il y a des compléments de protection qui font en sorte que quand on prend tout ça ensemble, ça nous assure un revenu adéquat. Ça va? Là, avant d'enchaîner avec le point suivant, intégration des différentes formes, là, la cartographie, avant d'y aller avec une cartographie, quel beau terme, hein, c'est impressionnant, on va regarder notre petit sommaire, donc ce qui nous a été rendu disponible par les gens de chez Normandin Baudry. Donc, c'est le petit ça, là. Quatre pages, mais en fait, on va en voir deux ensemble. La première, c'est la page couverture, sur laquelle je passais un petit peu plus rapidement. Je pourrais peut-être cache-nu un petit peu, là, mais je présume parce que c'est dû au fait que dans la version plus que vraie, il va y avoir un gros crest, un gros logo, là, qui est le nom d'entreprise, patati patata, nous travaillons pour vous, nous sommes fiers de vous compter parmi vous, nos employés. La dernière page, on ne la passera pas en revue non plus. C'est différentes informations complémentaires. Puis les gens demandaient, me disaient, hey, on a mis de quoi ces coûts, là, parce que, entre autres, en assurance médicaments, les gens ont l'impression, parce qu'ils ont une assurance, ils peuvent consommer. Bon, on leur dit, c'est correct, tu peux consommer, mais sache que si tu consommes, bien, ta prime va augmenter l'année prochaine. Fait qu'ils ont voulu les sensibiliser un petit peu, puis, bien, évidemment, ils donnent de l'information sur qui contacter en cas de quoi. OK? Donc, je vous inviterai à regarder ça, mais on y reviendra pas. Ce qui est intéressant, bien, c'est évidemment, on retrouve nos trois grands blocs dont je vous ai parlé il y a un instant. Le premier bloc, c'est l'assurance vie. Puis, dans l'assurance vie, il y a quatre protections. Une première protection, ce qu'on appelle l'assurance vie de base, qui est l'assurance vie obligatoire, okay, que tout employé, dont tout employé, va bénéficier. Puis, ce que ça dit, c'est que c'est une fois le salaire annuel. Donc, c'est l'équivalent payer en montant forfaitaire de votre salaire annuel au moment où vous décédez. Donc, on ne continue pas de payer à vos dépendants, là, à vos survivants, le salaire pendant un an, mais on vous dit, ben, tu gagnais 50 000 par année, ton montant forfaitaire d'assurance, c'est 50 000 par année. OK? Puis là, vous venez de commencer à travailler, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes blablabla, bien des affaires, vous venez de vous acheter un gros char. Vous êtes 50 000 c'est bien en masse. Correct. Quelques années plus tard, ben, vous recevez votre relevé, puis là, vous dites, « Oups, j'attends mon troisième enfant. Je commence à avoir des besoins de protection un petit peu plus grands. Le 50 000, ben, là, je suis rendu à 60 000, supposons. C'est peut-être pas assez. Je vais prendre une assurance facultative. » OK? Donc là, c'est l'employé qui se paye une assurance facultative, puis qui dit, « Ben moi, je veux rajouter un autre 60 000, donc je vais prendre 6 tranches de 10 000. » Puis, si je décède, ben, ça sera 120 000 au lieu de 60 000. OK? On dit employé conjoint. Vous pourriez avoir une situation où les deux conjoints travaillent, un des deux, là, l'homme ou la femme, est dans l'entreprise ici, puis a accès à cette assurance vie facultative. Par exemple, l'autre conjoint ou conjointe est travailleur ou travailleuse autonome, n'a pas accès à l'assurance collective. Bien, vous pourriez dire, hey, non seulement moi je veux rajouter 6 tranches de 10 000 pour ma protection à moi, mais je voudrais que mon conjoint, ma conjointe, ait aussi de l'assurance collective. On va payer pour ça. OK? À la limite, vous pourriez dire, bien, je voudrais avoir une protection pour mes enfants si jamais ils décédaient. Ça va être évidemment épouvantable, là. Mais en plus, ça va me faire encourir des dépenses supplémentaires, puis je n'ai pas le goût de jongler avec ça. Je suis un peu serré dans mes finances. Je vais prendre une petite assurance. Mais là, tu sais, c'est... On est plus à la marge un petit peu du point de vue de l'assurant. Un autre élément qui date de temps immémoriaux, puis qui est toujours présente, c'est l'assurance mutilation accidentelle. Dans le passé, je vous dis, ça date de temps immémoriaux. Ce qu'on offrait, c'était une assurance mort et mutilation accidentelle. Ça disait que si tu mourais suite à un accident, par opposition à mourir suite à une maladie, bien, on te payait plus. Au lieu de payer 60 000, on disait, bien, on va te donner un autre 60 000 parce que tu es mort suite à un accident. Puis là, les gens ont dit, ça ne change pas grand-chose, tu sais, que je sois mort suite à un accident ou suite à une maladie. Ça fait qu'on a enlevé ça, le mort et mutilation accidentelle, mais on a laissé le volet mutilation accidentelle. Mutilation, c'est que si vous avez un accident, je reviens à mon exemple que j'ai pris tout à l'heure, puis vous allez être tanné de m'entendre parler dans quelques semaines. J'ai un accident, je me fais amputer les deux jambes. C'est évidemment une mutilation extrêmement importante. Là. Puis là, on pourrait dire, bien, du fait que tu as perdu l'usage de tes membres inférieurs, on va te payer un certain montant pour te dédommager. C'est un dédommagement. Évidemment que, puis on y vient dans une minute, là, si je subis une mutilation, il y a des chances que ma capacité à travailler soit diminuée, mais ça, ce n'est pas à travers la protection mutilation accidentelle que tu auras ça. C'est à travers la protection assurance salaire. Ça va? Dernier volet, puis lui, il est beaucoup plus nouveau. C'est ce qu'on appelle l'assurance maladie redoutée facultative. Là, c'est un peu pathétique, tout ça. Là. Je parle de ça comme si c'était Jojo. Là. Ça ne l'est pas du tout, on en est conscient. Là. Mais quand même, pour votre formation, c'est important qu'on le fasse. Ce qu'on a vécu il y a quelques années, ce que des gens se plaignaient beaucoup, ou se plaignaient, ils disaient, bien, moi, j'ai une maladie grave. OK, une maladie qu'on appelle ici redoutée, là. Puis, j'aurais besoin de différents traitements, différents services. Puis là, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que le jour où je vais décéder, je vais toucher 200 000 Mais tant que je vis, c'est là que j'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de me faire accompagner. J'ai besoin de quelqu'un qui vient à la maison m'aider. Il y a certains médicaments qu'il faut que je paye qui sont remboursés seulement en partie par l'assureur. Puis, j'ai pas d'argent, je travaille plus. Puis là, vous dites, ah non, nous autres, on paye rien. C'est juste quand tu vas mourir qu'on va te payer. C'est qu'on introduit l'idée d'assurance, qu'on appelle ici assurance maladie redoutée facultative, qui fait en sorte que pour une personne atteinte d'une maladie sérieuse, qu'on appelle maladie redoutée, cas classique, c'est un cas de cancer, des problèmes cardiaques, on va te payer un certain montant de ton vivant pour t'assurer une sécurité financière. Oui?
Cette assurance-là, facultative, est-ce qu'elle peut être en complément avec l'assurance du gouvernement, comme par exemple, dans notre exemple
Oui, c'est ça. Ça va être en complément à ce que le gouvernement prévoit. Par exemple, le Cotipix pour les médicaments. Puis ça peut même être en complément à ce que l'assurance collective prévoit. Parce que l'assurance collective va prévoir que si tu as des médicaments, on va te les payer à hauteur de 80 %. Bien, 80 % de 50 000 $ il reste quand même un 20 % de 50 000 $ qui est 10 000 $ Si tu n'as pas l'argent, tu es mal foutu. Bien, ça, ça peut servir aux 10 000 qui te restent à payer. Ça va? Oui?
Est-ce que j'aurais accès à cette
Ouais. Ça, c'est toute la question des conditions préexistantes. OK? Ça, c'est très important par rapport à des questions d'assurance santé. Puis, une des raisons pour laquelle Trump n'a pas réussi à scraper Obamacare, c'est la question des conditions préexistantes. Aux États-Unis, là, c'est rendu une vraie farce que, par exemple, tu changes d'employeur, tu arrives chez un nouvel employeur. Puis là, pour t'assurer au niveau de l'assurance santé, là, tu passais une batterie de tests, puis ça avait été le moindrement malade, là, la prime, elle faisait ça. De sorte que les gens ne s'assuraient plus parce qu'ils avaient juste payé à la prime, je ne suis pas capable. OK? Donc là, tu as des conditions. Ici, c'est facultatif. Bon, on n'ira pas dans ce niveau de détail-là. Tu pourrais avoir une surprime, tu peux avoir des limites. Ça peut varier beaucoup, mais c'est un enjeu important. Puis quand c'est quelque chose qui est obligatoire, par exemple, pour l'assurance médicaments, qui est une protection obligatoire, bien, un employeur pourrait pas dire, bien, moi, je t'engage, mais si tu t'exclus du régime d'assurance médicaments parce que tu me coûterais trop cher. Ça, c'est un régime où là, tu ne peux pas faire ça. Évidemment, dans les faits, c'est que, comme je faisais une petite blague avec ça tout à l'heure, la personne qui se présente et qui dit, bien, c'est le fun, je vais toucher 50 000 de salaire, mais sachez en même temps que j'ai une facture d'assurance médicaments de 50 000 par année, l'employeur va peut-être dire, bien là, il y en avait un autre qui était bon à l'entrevue aussi, tu sais. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent passer autour de ça. On a quand même mis en place des mécanismes. Les assureurs peuvent se réassurer entre eux pour couvrir ces risques-là, puis l'État peut jouer un rôle. Il y a toutes les mécaniques. Ici, dans le cas où c'est des maladies facultatives, je ne suis pas au fait de tous les détails. Tu pourrais avoir certaines limitations, certaines, là, mais tu sais, c'est plus des petites protections. Ici, on parle de 5 000, dans des tranches de 5 000. Là. Donc, tu pourrais avoir des limites, par exemple, un maximum, puis c'est ça qu'on... C'est ça qu'on prévoit, bien, maximum 500 000, c'est quand même beaucoup, mais tu pourras avoir des plafonds. Juste un petit, il peut y avoir différentes variantes là-dedans. Mais c'est une très bonne question parce qu'évidemment, tu sais, dans l'esprit de bien des gens, le problème de l'assurance, c'est que les gens qui en ont besoin, ils n'ont pas accès. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, il y a un équilibre entre l'accessibilité et l'antisélection. Ça va? Oui?
Est-ce que ça peut arriver comme principe d'indemnité, ça veut dire qu'il ne faut pas s'enrichir?
Oui, OK. C'est le fait de limite de la question qui est posée. Est-ce qu'il peut y avoir une limitation qui fait en sorte, évidemment, que tu ne pourrais pas t'enrichir du fait de la mutilation? Puis ça, tu remontes même au code civil qui fait en sorte qu'il faut que tu aies un intérêt d'assurance, puis il faut certaines limitations. Mais les montants en cause, en général, n'amènent pas ce questionnement-là. Parce que le montant en cause est trop petit par rapport au préjudice que tu subis. C'est sûr que si tu voulais avoir, tu te présentais, puis si tu voulais avoir, moi, je vais avoir une assurance mutilation accidentelle d'un million si je perds un doigt, là, je caricature. Ben là, ils disaient, oh, on ne fera pas ça, parce qu'évidemment, c'est disproportionné. Mais dans le cas d'une assurance collective, c'est une des caractéristiques, on va y venir tout à l'heure, dans l'assurance collective, tu as des limites à ce que tu peux choisir. Ce n'est pas comme une assurance individuelle, où tu es jeune, en parfaite santé, pas de dépendant, pas besoin, puis tu dis, hey, je veux 10 millions d'assurance, patati patata. Parce que tu as un attachement à la vie qui est plutôt limité, bien, en assurance collective, les règles qui s'appliquent à tout le monde font en sorte que tu as moins de risques à ce niveau-là. Ça va? Ça va pour ça? Pas d'autres questions par rapport à ça? Donc, le premier volet, l'assurance vie. Le deuxième volet, l'assurance invalidité. Évidemment, ce qui est bon de noter par rapport à ça, c'est il y a les deux volets, courte durée puis longue durée, qui rejoint à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est pour la maladie, puis ça, c'est pour l'invalidité. OK? Des éléments, bon, il y a 66 2/3, on reviendra là-dessus, c'est la même chose ici, sujet un plafond. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, dans le cas, puis là, ça vient rapidement tout bousiller, mon affaire, là, avec mes petits graffitis. Dans le cas de la courte durée, on parle d'une durée maximale de 17 semaines. Dans le cas de l'assurance longue durée, on parle jusqu'à 65 ans. OK? Puis on dit quelque part là, que la longue durée embarque quand la courte durée se termine. Ça va? Donc, les deux volets qui sont offerts à ce niveau-là. J'avais quelques petites définitions. On va revenir sur ça plus tard dans le cours. Là, je passe plus rapidement là-dessus. À la page 3, ce que vous avez, c'est la santé. Puis vous avez là une longue liste. Ce qui est intéressant à travers tout ça, il y a deux choses qui sont particulièrement d'intérêt. C'est que, évidemment, toutes les réclamations ou tous les frais qui sont encourus par rapport à l'assurance santé sont pas visés par ça. Par exemple, prendre un bel exemple de ça, là. Ici, on parle d'hospitalisation. OK? Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, une intervention chirurgicale, des traitements diagnostiques, on fait de la radiologie pour cerner votre problème, chirurgie, ça coûte très cher, évidemment. Tout ce que l'assurance prévoit ici, c'est qu'on vient dire, pour l'hospitalisation, tout ce qu'on couvre, c'est les frais d'une chambre semi-privée. Donc, ce que ça coûte de vous avoir dans le lit et de vous avoir des soins de proximité pendant que vous êtes à l'hôpital. Évidemment, il y a une raison toute simple à ça, c'est que la chirurgie, les traitements diagnostiques, tout ça, c'est couvert par le régime public. Okay? Donc, l'assurance privée, en regard de la santé, elle est complémentaire à ce qui est offert par le public. Un autre exemple de ça, on parle des professionnels de la santé. Donc, on en parle ici. On vient vous dire, il y a bien des gens qui peuvent intervenir dans votre dossier, puis pour lesquels, on va vous rembourser les frais encourus. On ne parle pas des médecins, on ne parle pas des pharmaciens là-dedans. Pourquoi? Parce que ces gens-là, dans le cas des médecins, entre autres, là, sont couverts par le régime public. Donc, encore là, régime complémentaire. Donc, premier élément important par rapport au régime d'assurance collective en santé, le volet complémentaire par rapport à ce qui est prévu dans le public. L'autre élément qui est intéressant, un paquet de limitations. OK? Ce n'est pas barre ouverte. OK? Parce qu'évidemment, la santé, on n'est jamais parfaitement en santé. S'il n'y a pas un frein d'une quelconque nature pour t'empêcher de consommer, bien, tu vas en consommer beaucoup plus. Évidemment, rendre des services de santé accessibles, sans barrière financière, ça crée, d'une certaine façon, l'offre crée la demande. OK? C'est ce qui fait en sorte que, évidemment, il y aura toujours du monde dans les hôpitaux, puis il y aura toujours. Puis c'est pas juste le fait des gens qui ne se sentent pas trop bien ou qui ont le goût de se faire soigner, c'est aussi le fait des intervenants. Vous allez voir votre médecin, puis il trouve que, vous n'êtes pas nécessairement parfaitement en santé, mais il y a peut-être un petit quelque chose. Bien, s'il sait que vous envoyez passer un examen, ça va prendre 6 mois, puis ça va coûter 500$, il va peut-être dire, on n'ira pas tout de suite, tu reviendras dans 2 semaines, ça dure, là, je t'enverrai. Mais s'il dit, vous allez pouvoir passer l'examen demain matin, c'est gratuit, il va vous envoyer, là. L'offre crée la demande un petit peu. Donc, de ce fait-là, on va revenir là-dessus. En matière d'assurance santé, il y a souvent des limitations, notamment dans le contexte de régime privé d'assurance. Ça va-tu pour ça? Donc, d'autres, ici, on parlait un peu des soins médicaux. Vous avez ici les soins dentaires qui sont peu couverts par les régimes publics, seulement pour les enfants dans des situations particulières d'accidents, etc. Donc, c'est un volet quand même important des régimes privés d'assurance santé de couvrir, sujet à certaines limitations qui passent par un pourcentage maximum, certains soins qui sont à faire sujet à une franchise, parce qu'encore là, évidemment, si ça ne coûte pas cher d'aller se faire soigner, on va y aller. Puis, par exemple, quand on parle de soins de restauration majeure, on parle d'orthodontie. Si je peux me permettre une blague, moins ça coûte cher, moins on a besoin d'avoir les dents un peu de travers pour aller se faire traiter. Là, donc, on met des plafonds par rapport à ça. Un autre volet dont on est passé rapidement, mais qui est extrêmement important, puis on va y revenir, c'est la question des médicaments. Parce qu'on verra qu'évidemment, il y a beaucoup plus de maladies, conditions médicales qui se traitent par le biais des médicaments. Ce n'est pas juste dans l'idée de rétablir la santé, ça peut être dans l'idée de prévenir la maladie. Donc, c'est un volet extrêmement important. Dernière chose, c'est, je parlais tout à l'heure que face à un besoin, dans un contexte d'assurance, il peut y avoir une compensation financière. On peut dire, on va te rembourser pour les frais que tu encours, on va payer les frais qui sont encourus. On peut aussi travailler sur de la prévention. Je vous parlais qu'un jour, vous aurez tous une Apple Watch qui sera branchée directement sur votre assureur si vous avez une police d'assurance importante. Mais ce qu'on vient parler ici, c'est exactement la même chose. On est rendu à un point où, dans le cadre d'une assurance santé, on vous rembourse l'abonnement à un centre de sport. Parce qu'on a la conviction profonde, puis évidemment, il y a un paquet d'études qui ont démontré ça, que si vous faites de l'exercice, vous allez être en meilleure santé, puis on ne veut pas que vous soyez malade, donc on vous envoie faire de l'exercice. Ça va pour ça? Donc, ça, c'est véritablement un programme qui est offert à des employés d'une entreprise, je présume, est basée au Québec, là, quelque part, là, puis qui offre ça à ses employés. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui? Est-ce que j'ai manqué? Tu parles de la prime? Oui. Ah, bon, ça, on va y revenir. Je vais juste vous donner un premier flat. Ce que je vous demanderais de retenir ici, là, par rapport à la prime, tu sais, quand on parle d'un régime d'assurance collective, quand on parle de financer ça, bien, c'est soit l'employeur, soit l'employé qui fait. Puis on peut partager les deux coûts entre les deux. Ce qui est intéressant de voir, puis pour ce matin, on va se limiter à ça, puis on va y revenir après, c'est qu'en général, si l'assurance est obligatoire, l'employeur va en défrayer une partie, sinon la totalité, puis il y a différentes raisons qui motivent ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais en général, quand c'est facultatif, c'est beaucoup l'employé qui va payer. Ça peut être intéressant quand même pour l'employé de recourir à l'assurance collective, même si c'est facultatif. Par exemple, s'il est difficilement assurable au niveau individuel du fait de sa condition de santé, bien, ces gens-là qui ont des problèmes d'assurabilité individuelle, ils vont recourir à l'assurance facultative au niveau de l'assurance collective, parce que bien qu'il peut y avoir des limites, là, en général, il y a une fenêtre d'opportunité plus grande que ce que tu as en assurance individuelle. Ça va? D'autres questions, commentaires par rapport à ça? Donc, je vous invite à regarder ça. Je pense que c'est un beau cas, là, puis ça vaut la peine de s'y arrêter, bien qu'évidemment, ce matin, on commence, on va revenir à tout ça. On va revenir donc à notre question de la cartographie. Puis ce qu'on va faire avec la cartographie, c'est sensiblement, ou même de façon plus étendue, un peu comme ce qu'on vient de faire, mais plutôt d'y aller avec un cas concret, on va y aller de façon schématique, où on va dessiner, où on va écrire sur la petite ligne que vous avez là. Puis pour chacune des protections, chacun des risques plutôt, c'est quoi le niveau de la protection qui est offert, puis par qui? OK? Par exemple, la retraite, on dit, bien, regarde, si je suis à 0 %, là, ça veut dire que quand j'arrive à la retraite, j'ai zéro revenu. Alors que si je suis à 100 %, ça voudrait dire que quand j'arrive à la retraite, je continue d'avoir un revenu, entre parenthèses, de retraite, qui est équivalent à ce que j'avais avant, entre parenthèses, à titre de salaire. Donc, ça voudrait dire que le niveau de remplacement de revenus que j'ai à la retraite, il correspond à 100 %. Puis on va voir, en général, il n'y a pas bien des risques où tu vises à couvrir 100 %. Pour différentes raisons, peut-être parce que tu n'en as pas besoin, 100 %, peut-être parce que là, nous, on parle juste des régimes collectifs. Il y a des régimes individuels qui peuvent compléter. Puis il y a aussi, peut-être parce que personne ne veut que tu ailles 100 %, parce que si tu es malade, puis où tu es invalide, puis tu as 100 %, tu ne seras pas bien tenté de retourner travailler. Donc, question d'incitation à la réintégration du marché du travail, on peut viser moins que 100 %. OK? Donc, on va regarder concrètement sur cette ligne-là du taux de remplacement de revenus. Ce n'est pas une ligne du temps, c'est une ligne du taux de remplacement de revenus. Qu'est-ce qui est prévu par les différents régimes? Puis là, évidemment, c'est un premier regard qu'on pose sur ça. Je vous garoche par la tête un paquet d'acronymes. Si ça vous tente, ça vous ennuie, ça vous écarte, ben, faites-vous-en pas, on va y revenir. Donc là, je vous garoche un peu vite, mais on va y revenir dans les prochaines semaines. Vous avez là le régime de rente du Québec. Si vous travaillez ou si vous avez travaillé, vous avez une petite cotisation qui va pour ça chaque semaine. Ça prévoit des prestations de retraite en cas de décès et en cas d'invalidité. Vous avez la CSST, qui est la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Dans les faits, là, j'ai été un petit peu paresseux, j'ai pas introduit de nouvel acronyme. Maintenant, ça s'appelle la CNESST, c'est la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail. Évidemment que la question des normes du travail puis de l'équité en emploi ou l'équité salariale, ça nous concerne moins, là. Nous, c'est plus le volet santé et sécurité au travail ou face à des risques d'accidents ou de maladies liés au travail, on assure une protection. La SAAC, c'est la Société d'assurance auto. Donc, s'il y a un accident d'auto, c'est eux qui payent. AE, c'est l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, bien, c'est, on le verra, là, c'est pas juste des prestations en cas de chômage. c'est au cas aussi des prestations en cas de maladie. Donc, l'idée, l'assurance emploi, c'est des prestations de courte durée si vous êtes incapable de travailler. Ça peut être du chômage, ça peut être de la maladie, puis il y a même d'autres prestations qu'on verra plus tard dans la session. Le RQAP, c'est le Régime québécois d'assurance parentale. Donc, suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant, on paiera des prestations aux parents qui doivent s'absenter pour s'occuper de leur emploi, donc du remplacement de leur salaire pendant cette période d'absence-là. Puis finalement, bien, il y a une pension fédérale, puis ça, c'est la beauté de la chose, je vais m'en servir pour illustrer certains concepts. Une pension qui se veut universelle, donc payée à tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, 65 ans et plus, un montant de base. Donc, toute personne qui vit ici, qui a vécu un certain nombre d'années, qui est rendue à 65 ans, on donne un chèque parce qu'on considère que, différentes raisons, c'est méritoire, tu mérites ça, on veut assurer ta sécurité financière. Puis en plus, bien, c'est que si tu n'as pas d'autres revenus, on va te donner un supplément qui est le SRG. OK? Donc ça, c'est les principaux régimes, puis on va griffonner ça sur notre ligne, là, pour chacun des risques ouverts. Mais avant qu'on arrive là, il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, on a nos programmes d'assurance collective, OK, qu'on a vu il y a une minute. Puis à ce niveau-là, bien, on a la vie, la santé, puis l'assurance salaire. OK? Puis aussi, il y a une autre chose qu'on a, puis on en a moins parlé, mais on va y revenir, c'est que par rapport à la retraite, on peut avoir, par l'entreprise, ce qu'on appelle un régime de retraite. C'est très recherché comme nom, hein? On part de la retraite, puis on met régime en avant, ça fait régime de retraite, là, donc ça, on se comprend. Ça va? Donc ça, c'est les régimes qu'on va regarder. Puis, perdez pas de vue, on a dit, ça c'est deux étages, l'étage du public, l'étage des avantages sociaux, il y a l'étage individuel, mais ça, on s'en occupe pas. Puis évidemment, il faut prévoir un petit peu d'espace pour ça aussi. Si on regarde la retraite maintenant, bien, en général, on va partir avec l'idée qu'on travaille avec le travailleur moyen. Travailleur à revenu moyen, OK? Parce qu'évidemment que les pourcentages varient, puis vous allez tout comprendre ça dans quelques semaines, en fonction du niveau de revenu. L'idée générale, c'est que si vous êtes un haut salarié, vous gagnez 1 million par année, bien, le gouvernement ne vous payera pas un gros pourcentage du million. Par contre, si vous êtes un travailleur à faible revenu, le gouvernement va s'occuper davantage de vous, ne serait-ce qu'en pourcentage de revenu. Ici, on va prendre notre travailleur à revenu moyen. OK? L'idée de la façon dont le système est bâti, c'est qu'on a un 15 % qui est payé au titre de la PSV. Ça va? Et puis, on a un 25 %, ce qui nous porte à 40. Là, je ne sais pas si je fais le cumulatif. Là, on va mettre le cumulatif. 40 % qui est payé au-dessus du RRQ. Donc, évidemment, en toute logique, 25 % de remplacement de revenus associé au RRQ. Ce que les études ont montré, différentes raisons, c'est qu'on devrait viser de façon générale à la retraite un objectif de remplacement de revenus qui est de 70 %. Donc, si le public, à travers le RRQ puis à travers la PSV, paye 40, ça veut dire qu'il nous reste 30 % pour le régime de retraite, là, que j'appelle RR. OK? Mais qu'en fait, de façon plus formelle, si on voulait être rigoureux ce matin, c'est comme ça que ça s'appelle, on appelle ça des régimes complémentaires de retraite, donc RCR. Pourquoi? Parce qu'ils sont en complément à ce qui est prévu par le régime public. OK? Donc, comme il est plus facile pour moi que pour vous autres d'effacer, je vais simplement effacer ça. On repasse en neuf. Puis on va venir dire, bien, ce qu'on a ici, c'est le RCR. OK? Donc, on ne vise pas avec les mécanismes collectifs à remplacer 100 %. Parce que là, on pourrait très bien se dire, ce qui vient ici, c'est du ressort de l'épargne individuelle. Mais aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que bien, peut-être que pour maintenir son niveau de vie à la retraite, je n'ai pas besoin de 100 %. Deux exemples classiques de ça. Vous avez eu des enfants, vous êtes rendu à la retraite, ils sont autonomes, c'est une dépense en moins. Autre exemple classique de ça, Vous vous êtes acheté une maison pendant des années. Vous avez fait des paiements sur une hypothèque. Maintenant, elle est votre propriété, une dépense en moins. Fait que peut-être qu'à 70 %, vous êtes bien correct, vous maintenez votre niveau de vie. Ça va? Mortalité maintenant. Mortalité, ce qui est particulier, c'est qu'on va prévoir la mortalité, le pourcentage, il n'est pas défini par rapport au salaire. On va définir le pourcentage du revenu de retraite. En fait, le cheminement classique, là, c'est ce qui s'applique dans un grand, grand nombre de cas, c'est ce qu'on souhaite tous, c'est que, puis de plus en plus, c'est vrai, là, si on allait dans les questions d'études de mortalité, on pourrait se faire plaisir en regardant ça. Évidemment, en général, les gens ont une espérance de vie de 80-85 ans. Donc, la grande majorité des gens qui sont en emploi, puis qui cotisent un régime d'assurance ou de retraite, public, privé, etc., bien, ils vont avoir un certain nombre d'années de retraite. Ils vont décéder après. Donc, la prestation applicable en cas de mortalité, elle s'applique après un certain nombre d'années de retraite. C'est pour ça, ici, on va la définir en pourcentage du revenu de retraite et non pas en pourcentage du salaire, parce que typiquement, quand vous décédez, vous êtes déjà retraité, vous n'êtes plus un salarié. OK? Oui.
Juste précédemment, dans le travailleur autonome,
oui.
Lui, il faudrait que ses épargnes individuelles.
Oui. Le travailleur autonome, donc, qui n'a pas d'employeur, qui n'a pas accès à ce régime d'employeur-là, lui, du fait qu'il est un travailleur puis il fait partie de la société, si on veut, il va avoir accès à ça ici. OK? Par contre, il n'aura pas accès à ça. Donc, lui, l'épargne individuelle va devenir importante parce que c'est ça qui va lui permettre d'aller chercher 70 %. Ça, on va revenir sur ça aussi, là. C'est un point très, très intéressant. Donc, du point de vue de la mortalité, ce qu'on voit, c'est qu'on a un objectif de 60 % du revenu de retraite puis en général, là, pour conjoint survivant. OK, donc je disais tout à l'heure, vous êtes rendu à la retraite, les enfants que vous avez eu à un certain moment sont des adultes, sont autonomes, etc. La protection, c'est du remplacement de revenus pour le conjoint survivant ou la conjointe survivante. Puis ça, bien, c'est vrai à la fois pour le RRQ, puis c'est vrai à la fois pour les RCA. Okay? Évidemment, c'est fondé sur un modèle traditionnel, c'est-à-dire que si on remonte dans la tradition la plus authentique et la plus pure qui soit, bien, c'était un monde où les hommes travaillaient puis les femmes demeuraient à la maison pour s'occuper notamment des enfants. Puis évidemment, Dieu merci, on n'est plus là, mais ces régimes-là ont été basés là-dessus, que si le retraité, qui était un homme, décédait, bien, sa conjointe ne se ramassait pas sans le sou, parce qu'on prévoyait ce qu'on appelle, puis vous avez peut-être vu ceux qui ont suivi maths actuariel, là, la réversion, c'est-à-dire une rente réversible au conjoint. Oui?
C'est bon pour conjoint marié ou
seul? Ah oui, on va examiner ça durant la session. Conjoint marié, si on est serment admissible, conjoint de fait, il y a certaines exigences. Là. C'est pas parce que vous êtes allé au restaurant un soir ensemble que vous êtes reconnus, là, mais on va revenir sur ça. Ça va pour ça? Donc ça, c'est la mortalité. L'autre cas, c'est l'invalidité. OK? Alors, puis là, juste une précision. Mortalité, ici, on pourrait se mettre que disposition spéciale, puis on pourrait mettre CSST, SAC. Parce que le cas que je vous ai identifié, là, c'est le cas de la personne qui est rendue à la retraite, elle a une belle retraite, 20 ans, décès, conjoint sont encore présents, on assure une réversion. Mais évidemment, il y a des décès prématurément, là, malheureusement, évidemment. Puis dans ces cas-là, on peut prévoir autre chose. Mais pour l'instant, on va passer autre chose. Ça va-tu pour ça? On va regarder maintenant l'invalidité. Puis on se rappelle que quand on parle d'invalidité, on parle de longue durée, OK, par rapport à la maladie qui, elle, est de courte durée. On le verra tout à l'heure. OK? Bien, quand on parle, puis là, je vais me coller à l'exemple qu'on a vu là, avec notre cas de Normandin-Baudry. Ce qu'on va voir, c'est que le régime de rente, je vous ai dit tout à l'heure, le régime de rente du Québec qui prévoyait des prestations de retraite, ça, c'est le pain et le beurre, là, c'est le gros, ça doit être à peu près 80-85% des prestations sont payables, de prestations de retraite. Mais on prévoit aussi des prestations d'invalidité, des prestations en cas de décès. Dans le cas des prestations d'invalidité, le RRQ va prévoir, grosso modo, on est toujours dans l'univers de notre travailleur à revenu moyen, une prestation qui correspond autour de 40%. Okay? Ce qui est magique de ça, c'est que, on va revenir sur ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour la retraite, PSV 15, RRQ 25, total public 40. Bien ici, la PSV ne prévoit pas, mais on a bâti le régime de rente en prévoyant, grosso modo, l'équivalent de la PSV et du RRQ dans un même régime qui est le régime de rente. OK? Puis ce qu'on a vu avec notre cas d'assurance salaire, c'est qu'on était, je dis ABC, là, c'est la compagnie qu'on a vue tout à l'heure, ça nous disait que l'assurance salaire allait à 66,2 tiers. OK? Puis là, si vous avez noté, ABC, on disait c'est 66,2 tiers jusqu'à plafond. OK? Donc, maximum en termes de salaire ou en termes de prestations où on va payer 66,2 tiers. Puis on disait, si ma mémoire est fidèle, là, qu'au-delà de ce plafond-là, c'est 45%. OK? La beauté de la chose, puis on va revenir sur ça dans les prochaines semaines, le RRQ est aussi sujet à un plafond. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est que pour quelqu'un, par exemple, notre travailleur, notre travailleuse à revenu moyen, on dit le RRQ va payer 40%, puis l'assurance collective, l'assurance salaire de longue durée de ABC, qui est assurée chez DSF, on est tous dans les acronymes, va payer l'excédent, donc va payer 26,2 tiers%. Sauf que quand tu arrives au plafond, au maximum du régime de rente, bien là, le régime de rente dit, moi, je ne paye plus. Au-delà de 50 000 $ par année, je ne paye plus. J'ai un plafond. OK? Là, si ABC offre, maintient son niveau de prestation à 66,2 tiers, à partir de ce moment-là, il ne payera pas le 26,2 tiers, qui est la différence entre 66 et 40. Il va payer le plein 66,2 tiers, parce que le régime public ne paye plus. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'ils ont réduit quelque peu le taux de remplacement au-delà du plafond de l'assurance. OK, là, il y a deux plafonds. Ce n'est pas nécessairement le même montant exactement, mais sachez que l'idée qui est intéressante, là, ce matin, c'est de dire, oups, c'est un régime public, il y a un plafond. En deçà du plafond, le régime public paye. Le régime privé paye juste le complément. Au-delà du plafond, le régime public ne paye plus. Le régime privé doit donc payer la totalité. Mais pour se protéger, ABC a réduit le taux de remplacement au-delà d'un certain plafond. Ça va-tu pour ça? Maladie, absence temporaire, je suis incapable de travailler les 3 prochaines semaines, certifié par un coupon, un billet médical. Vous pouvez faire une demande, puis à ce moment-là, c'est l'assurance emploi qui va embarquer à 60%. OK? L'assurance emploi, la prévention, on appelait ça l'assurance chômage, mais l'assurance emploi, ça vous paye une prestation pour une absence temporaire de votre travail, de votre emploi. OK? Là, on a vu aussi tout à l'heure qu'il y avait une protection jusqu'à 66,2 tiers chez ABC. Évidemment que ça ne leur coûte pas trop cher dans la mesure où l'assurance emploi en bas. C'est-à-dire que si la protection offerte par ABC est complémentaire à ce que l'assurance emploi offre, bien, ça ferait juste un petit 6,2 tiers%, du moins pour les gens qui sont en deçà du maximum prévu par l'assurance emploi. Là, il y a des petites variantes. Je vous ouvre une petite parenthèse bien vite, mais vous n'avez même pas besoin d'y entrer, on va y revenir. Dans la mesure où j'offre, moi, un régime d'assurance salaire, je peux écrire à l'assurance emploi et dire, « Hey, j'offre un régime d'assurance salaire, retire-toi, je vais payer la totalité de la prestation. » si vous êtes enregistré au niveau de l'assurance-emploi. Donc, d'un point de vue de design de régime, il y a deux options. Moi, je suis l'entreprise ABC. Je mets en place un régime d'assurance salaire de courte durée. Je peux dire, on continue tous de payer nos primes à l'assurance-emploi. Si des gens deviennent malades, l'assurance-emploi va payer 60 % le gros du crunch, là. Puis nous autres, on va juste payer une petite prestation. À l'inverse, pour dire, tant qu'à offrir ça, il faudra bien payer de quoi. On écrit à l'assurance-emploi, on s'enregistre. L'assurance-emploi, tu te correct, je te reconnais. Je réduis ta prime que tu payes à l'assurance-emploi en contrepartie du fait que tu offres une protection d'assurance salaire de courte durée qui prévoit bien évidemment au moins 60 % puis qui nous porte à 66 2/3. OK, on va revenir là-dessus, là, plus tard dans la session. Quand on parle de prestations de maternité, comme je vous l'ai mentionné, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le régime québécois d'assurance parentale. Lui, de façon générale, il peut aller jusqu'à 75 % de remplacement de revenus. Puis là, il y a deux éléments intéressants. Vous avez des employeurs qui vont dire, « Ben moi, 75 % c'est bon, mais je trouve ça fantastique que mes employés, puis d'abord ben, les femmes parce qu'il y a la période qui suit l'accouchement, mais aussi les pères, les hommes. Je porte ça, par exemple, prendre l'exemple d'employés du secteur public québécois, 93 % OK? Donc, ça ici, on appellerait ça un régime complémentaire d'employeur, mais ce n'est pas un régime assuré. OK? Mais c'est l'employeur. C'est un complément de salaire, si on veut, un complément de traitement qu'il verse aux employés parce qu'il veut éviter que parmi ses employés, les personnes qui choisissent d'avoir des enfants, aient une perte de revenus trop importante. Mais ça n'a pas figuré, on n'a pas vu ça dans ABC. Peut-être qu'il n'offre rien, mais peut-être juste que ça ne fait pas partie du programme formellement, du programme d'assurance collective. Ça fait partie du programme d'avantages sociaux, mais pas formellement du programme d'assurance collective. La beauté de la chose, d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant du RQAP, c'est quand on paye 75 % c'est une prestation qu'on paye pendant 40 semaines. Puis pour une raison que je pourrais vous parler en temps et lieu, quand on sera rendu là, il y a une autre option qui a été prévue dans le RQAP qui dit, bien, au lieu d'avoir 75 % pendant 40 semaines, tu as l'option d'avoir 70 % pendant 25 semaines, ou 26 semaines, je ne sais pas, peu importe. Puis 55 % pendant 25 semaines. OK? Concrètement, ce que ça veut dire, vous avez un enfant, vous pouvez être en absence de travail pendant 40 semaines avec une prestation qui correspond à 75 % de votre salaire. Vous vous dites, hey, moi, c'est super, 75 % c'est raisonnable. Puis 40 semaines, ça fait mon affaire. À l'inverse, pour les autres, non. Moi, là, c'est le plus longtemps que je serai avec mon enfant, le mieux c'est. Puis en plus, on verra ça rendu là, c'est que, en termes de ça, il faut aller dans un service de garde, puis il n'est pas accessible avant un an. Moi, je vais être chez nous pendant un an, là, 50 ou 52 semaines. À ce moment-là, on dit, hey, Josette ou Joe, ou peu importe, là, comme tu vas être chez vous pendant un an, plutôt que 40 semaines, on ne te payera pas 75 % on va te payer 70 % pendant les 6 premiers mois. Puis 55 % après. Mais pédagogiquement, d'un point de vue éducatif, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a là une flexibilité. OK? Chômage, puis on termine avec ça, puis on prend une petite pause. Bien, chômage, c'est payé par l'assurance-emploi. OK? Ça ressemble beaucoup à la maladie. Donc, ce qu'on a au niveau du chômage, c'est une prestation payée par l'assurance-emploi de 60 % OK? Là, on peut se questionner, est-ce que il y a un régime complémentaire d'employeur qui peut être prévu? Ça va? Moi, j'ai la compagnie ABC, là, dont on parlait tout à l'heure. Puis malheureusement, ça a mal tourné notre affaire. On fait faillite, on ferme boutique. Évidemment, première chose, mes employés vont tomber en chômage. Deuxième chose, je ne leur payerai pas un supplément, je n'existe plus, je suis en faillite. Donc, il n'y aura pas de complément payé par l'employeur. Mais à l'inverse, je ne suis pas ABC. Je suis une compagnie qui est saisonnière. OK? Je suis une entreprise, puis là, on va se situer, je suis en Gaspésie. Je suis une usine de transformation du poisson. Puis c'est assez sophistiqué, notre affaire, là. C'est beaucoup plus automatisé que ça a déjà été, avec de l'appareillage et tout. Moi, je suis intéressé que... Ben, je sais, a priori, que mes employés vont être en chômage une partie d'année parce que quand il fait moins 20 puis il y a 24 pouces de glace sur le golf, il n'y a pas de pêche, donc il n'y a pas de poisson à transformer. Mais je sais aussi très pertinemment que le printemps revenu, la glace va fondre puis les pêcheurs vont sortir. Donc, je vais avoir besoin de rappeler mes employés dans l'usine pour travailler. Puis comme je ne veux pas qu'ils s'en aillent, il y en a déjà assez qui vont à Montréal puis tout ça, je veux qu'ils restent dans la région puis je veux qu'ils demeurent disponibles pour moi, je pourrais leur payer une prestation complémentaire justement parce que c'est des employés spécialisés puis que je veux qu'ils restent disponibles pour revenir travailler avec moi le moment voulu. OK? Donc, dans certaines situations, puis on va revenir là-dessus, là, vous faites-vous-en pas si vous n'avez pas l'impression que vous les avez tout notés ce matin, on va revenir sur ça. Dans certaines situations, on pourrait avoir des régimes complémentaires de chômage qui sont prévus par un employeur. Mon exemple du poisson, ce n'est pas un bon exemple. Mais prenez l'exemple, je ne sais pas, une compagnie comme Bombardier, par exemple, qui fabrique des avions, puis il ne veut pas bien, travailler à la construction d'avions, ça demande une certaine expertise, ça prend de la formation quand tu arrives et tu veux commencer à travailler chez Bombardier. Ben, c'est pas parce qu'ils ont un 3 mois de slack ou 6 mois ou tout ça, qu'ils n'ont pas de contrat et qu'ils sont obligés de mettre du monde à pied, qu'ils sont prêts à prendre le risque de perdre ces travailleurs-là qui vont aller travailler dans une autre entreprise. Fait qu'ils seraient peut-être tentés de leur dire « Hey, vous êtes des bons employés, on vous a formés, vous êtes performants à l'emploi, on est même prêt à vous prévoir un régime complémentaire de chômage pour faire face à la situation qu'on sait temporaire, qui fait en sorte que dans les 6 prochains mois, on n'a pas d'emploi pour vous, mais on veut que vous demeuriez disponible pour travailler chez nous. » C'est des choses qui pourraient se faire. Oui, il y avait une question? Oui. Ça, dites-vous que dans tous les régimes publics, il y a un plafond. C'est l'État, quand tu introduis des régimes d'assurance, l'État, il y a un rôle de responsabilité sociale pour offrir ce genre de régime-là. Mais les gens disent que la responsabilité, elle ne va pas au point d'assurer une rente de 40 % de quelqu'un qui gagne 1 million par année. Ça, c'est vrai dans tous les régimes publics. On met des plafonds pour... On ne veut pas couvrir les travailleurs à revenus élevés ou très élevés. Puis la beauté de la chose, moi, je vous parle de complémentaire public-privé en termes de taux de remplacement de revenus. Perdez pas de vue, puis on va y revenir, puis c'est un bon point, que pour les gens à revenus élevés, le régime privé prend beaucoup plus de place parce que le régime public, il arrête de couvrir un certain niveau de revenus. OK? Ça va pour ça? Dernière chose, je vous ai dit, la maladie, le chômage, c'est des absences temporaires du marché du travail pour des raisons différentes. Bien, la maternité, c'est exactement la même chose que la maladie et le chômage. OK? C'est une absence temporaire du marché du travail. Une incapacité temporaire à occuper son emploi parce qu'on a d'autres choses à faire. Malgré ça, on s'aperçoit que les programmes publics à 75 % ou même les programmes privés à 93 % y prévoient un taux de remplacement qui est plus élevé en cas de maternité qu'en cas de maladie ou de chômage. La raison de ça, elle est toute simple, c'est l'incitation au travail. OK? Si vous êtes malade ou si vous êtes en chômage, on veut vous inciter à retourner au travail. Donc, on vous donne 60 %, c'est à peine plus que la moitié de ton salaire, ça t'incite à retourner au travail. Dans les cas de maternité, c'est un choix qu'on fait, comme société ou comme employeur, de dire une personne qui a un enfant, on considère souhaitable qu'elle reste chez eux et qu'elle s'occupe de son enfant pour une période déterminée. Donc, on ne veut pas créer d'incitation à retourner au travail, on veut l'encourager à aller chez elle. De ce fait-là, on peut se permettre des taux de remplacement qui sont plus élevés, simplement. Ça va pour ça? On prend une petite pause, puis on reprend ça dans un dernier petit bout pour une dizaine de minutes.